Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
Charlie, voici notre nouveau voisin, Jerry Dandridge.
Sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à la représentation de la sexualité dans le cinéma d'horreur des années 80. Cette idée de thématique nous est venue à la vision du très bon film d'horreur méconnu de John Hough, récemment édité par Rimini, Incubus. Nous nous sommes alors rendu compte que de nos jours, la sexualité dans les films d'horreur est quand même beaucoup plus aseptisée. Et pour traiter de ce sujet, nous avons sélectionné quelques films représentatifs des années 80, en tout cas pour nous. Hein. Donc en plus de John Hough, nous vous proposons d'analyser sur toute leur couture. Quel programme ? Amityville 2 de Damiano Damiani, dont vous pouvez voir une très belle copie en Blu-ray chez Backfilm. Vampire, vous avez dit Vampire, de Tom Holland et Christine de John Carpenter. Et ça, c'est chez Carlotta Film que c'est disponible. Et pour causer sexualité et cinéma d'horreur, je suis entouré de mes chroniqueurs les plus hot. Je veux bien sûr parler de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
À mes côtés également, Thomas Roland, dit le loup-garou picard qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA et rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien, et bien sûr, salut à toutes.
On va débuter cette émission par un drôle de film, Incubus de John Hough. Parce que bon, je me souvenais pas d'un film aussi tordu que ça, quand même. Je l'avais vu il y a longtemps, et quand je l'ai revu, là, en plus, le Blu-ray Rimini est quand même vraiment beau, la copie est super belle. Je vais d'abord vous faire le pitch. Je vais pitcher le film, comme on dit hein, maintenant. Bon, je vais le résumer, en fait. Donc voilà, alors, un couple est agressé près de la petite ville de Galen, en Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Angleterre, évidemment, lieu de toutes les sorcelleries. L'homme meurt et la femme est violée jusqu'à la destruction de son utérus, mais elle survit péniblement en état de choc, incapable de dire le moindre mot. Et c'est alors qu'intervient le flic Hank Walden, joué par le vétéran John Ireland, qui essaye de déterminer l'identité du violeur assassin. Et il doit collaborer avec le médecin Sam Cordell, alors avec John Cassavetes. Eh oui, excusez du peu. Mais les analyses sur la survivante ne décèlent pas de traces de sperme. Le violeur va passer une deuxième fois à l'offensive, et cette fois, la victime ne va pas en réchapper. Et la Cordell va trouver du sperme, mais il est rouge, déjà, ce qui est quand même assez étrange. Et bon, de plus en plus, on se demande si ce ne serait pas quelque chose de surnaturel qui est en train de se passer. Et il se trouve que, pendant ce temps-là, une journaliste, Laura Kincaid, hein, donc interprétée par Kerry Keene, s'intéresse de plus en plus à ces meurtres. Pendant ce temps également, il y a la fille de Cordell, que Cordell quand même surveille de près, hein, voilà, qui a un petit copain un peu bizarre, voilà, que son père n'aime pas beaucoup. Voilà, et toutes ces personnes-là vont se retrouver mêlées à cette histoire. Oh, vu le titre, vous l'avez compris, cette histoire d'un cube. Donc, Thomas, tu vas peut-être nous rappeler ce qu'est un incube.
Un incube, c'est un démon mâle qui prend plaisir à violer les jeunes femmes la nuit de préférence.
Et en fait, le mot incube vient du latin qui désigne ce qui se couche dessus. Et la succube est celle qui se couche dessous. Alors on en apprend des choses dans Culture Prohibée. Ouais,
c'est quand même assez conservateur comme façon de voir les choses. Hein.
Ah bah ça, c'est pas moi. C'est pas de ma faute. Hein. Ça, c'est pas moi qui ai inventé tout ça. Enfin, quoi qu'il en soit, le film, voilà, donc ça, je l'ai expliqué, hein, il y a une série de viols perpétrés par une créature, évidemment, qui laisse quand même les femmes dans un état catastrophique. Hein, soit elles meurent, soit elles ont l'utérus détruit. Voilà. Et les soupçons de l'enquête se portent très vite sur un jeune homme qui s'appelle Tim, parce qu'il fait d'étranges rêves, parce que c'est un film très onirique aussi. À partir de là, il y a toute une mécanique qui se met en place. Alors, le personnage principal, c'est vraiment celui du médecin. C'est Cordell, c'est John Cassavetes, voilà, dont on dit d'ailleurs qu'il a réécrit une grande partie de ses dialogues. Et le film est quand même assez surprenant. Il est mis en scène par John Woof, qui a réalisé Twins of Evil, Hurlement 4. Je sais que Thomas, t'es un fan des Hurlements, toi, qui es un amateur de loups-garous. Et assez étonnamment, John Woof, qui est donc un réalisateur passé par la Hammer Film, hein, par le film, voilà, les grands canons esthétiques du fantastique gothique british. Assez étonnamment, enfin pas étonnamment d'ailleurs, mais malgré le sujet, qui est un peu traité à la manière d'un slasher en plus, c'est assez marrant. Sauf que ce serait un slasher où les victimes n'ont pas forcément fauté. On n'est pas dans le slasher réac, mais c'est un peu traité de la même manière, c'est-à-dire des meurtres qui s'enchaînent avec souvent des filles dénudées, elles se font tuer, enfin violer et tuer, derrière, il y a une enquête qui est menée. Voilà. Après, il y a aussi un peu de surnaturel, tout ça, mais enfin, c'est un peu la structure d'un slasher. Et ce film qui aurait pu être, en fin de compte, qui laisse un souvenir assez malaisant, assez poisseux, assez étrange, en fait, un peu, on est un peu révulsé par le film. Et ben, quand on y regarde de près, c'est un film, en fin de compte, assez suggestif. John Woof, il applique justement les bonnes vieilles méthodes, hein, de la suggestion, à la britannique un peu, voilà. J'irai pas jusqu'à dire qu'on retrouve Rosemary's Baby, parce que bon, il y a Cassavetes, évidemment, donc on fait le lien avec le film de Polanski. Mais on est quand même dans quelque chose d'assez sobre, malgré tout. Mais en fait, on reste assez sidéré par la violence des actes commis. Et puis surtout, c'est un peu méthode dont se rappellera Fincher pour Seven, c'est-à-dire qu'on voit plutôt les conséquences des meurtres que les meurtres en eux-mêmes. On voit ce qui... on va jusqu'au meurtre, mais on voit pas le meurtre, et après on voit pas le viol en fait, et après on se retrouve après, voilà. Et ça c'est assez intéressant. Et au final tout passe par la mise en scène. Enfin la mise en scène de John Woo, elle est vraiment très très maîtrisée. Et puis on a vite fait de se moquer complètement de cette enquête policière qui est ma foi assez classique pour s'attarder sur certains moments de bravoure, mais aussi des trucs très étranges quoi. Enfin par exemple, les quantités de liquide séminal qui sont retrouvées, ou le fait qu'on parte tout de suite sur quelque chose, un moment dans quelque chose d'assez ésotérique. Et puis le tueur est quand même comment dire un comportement assez étrange quoi. Enfin voilà, il est guidé par quoi? On ne sait pas. On essaye de deviner. Il y a des meurtres quand même assez sordides. Je pense à une jeune fille dans les toilettes d'un cinéma qui est un meurtre assez crade, assez glauque. Il y a aussi la scène de la bibliothèque qui là fait vraiment référence à la Hammer, justement au fantastique gothique. Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse pour l'émission, il y a au centre de tout ça, le sujet principal du film, ça reste, c'est la sexualité. Et on rigole pas beaucoup. Hein. Là, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez... De ce qu'on nous présente, c'est assez glauque quand même, je trouve. On a Jack Cassavetes, c'est le héros, mais il est très ambigu, il est froid. Et il veut à tout prix préserver sa fille, qui est jouée par Erin Noble, la protéger des hommes, bien sûr. Mais, alors je sais qu'on peut voir les choses d'une manière différente. Mais vu qu'on parle d'un cube, et que bon, l'incube peut aussi se concrétiser à travers les scènes de rêve, parce que normalement, c'est utilisé pour représenter le mythe de l'incube, les pulsions sexuelles inavouées, inavouables. Voilà. Et la jeune fille, là, elle fait quand même des drôles de rêves. Hein. On peut aussi penser qu'il y a une sorte de relation incestueuse, même si elle n'est pas consommée entre le père et la fille. Et je m'explique, parce que c'est là que c'est pervers. C'est quelque chose à côté duquel on peut passer en regardant le film. Mais en fait, Cassavetes est d'abord veuf, je crois, si je ne m'abuse, de la maman de cette jeune femme. Et ensuite, il se remarie avec une femme qui a l'âge de sa fille. Voilà. Et là, il est séparé de cette femme, dans le film. Hein. Il n'est plus avec cette femme qui avait l'âge de sa fille. Mais en même temps, il se montre réfractaire à la liaison qu'entretient sa fille, donc avec Tim, qui est aussi le principal suspect. Mais avant qu'il soit suspect, il était déjà réfractaire à cette union. Et Tim a aussi d'étranges rêves et d'étranges cauchemars. Donc, tout cela laisse penser à une relation pas très saine, forcément, entre le père et la fille. Et puis, on a cette créature où, effectivement, là, on a cette sexualité hyper bestiale, hyper violente. Puis, quand l'identité de la créature est révélée, ça prend encore une autre dimension.
Je suis passé un peu à côté de ton explication sur l'inceste. Moi, j'ai vu plein d'autres choses, mais pas l'inceste. J'y vois un film aussi sur la masculinité, sur le doute de sa virilité au moment de l'adolescence, à travers le personnage de Tim. C'est ça. Il y a aussi un sous-texte sur l'homosexualité. Bon, je ne peux pas trop en dire là-dessus, mais à un moment, ils sont devant une affiche de cinéma qui en dit beaucoup quand on connaît la fin. C'est un film sur l'homosexualité qui parle d'homosexualité, mais aussi de transsexualité, de comme tu viens de le dire, de pulsions qu'on ose s'avouer, qui est inavouable, de désirs qu'on n'assume pas. Il y a aussi ce passage quand la jeune femme se fait violer dans les toilettes, en fait, elle assistait à un concert, et dans ce concert, ils refont la scène de Samson et Dalila, où Dalila coupe les cheveux de Samson pour couper sa puissance. Donc on peut voir tout ça sur le fait que c'est un film qui remet en doute la virilité, la puissance sexuelle. Et moi j'y vois tout ça dans ce film-là.
Galen Village. Tranquil. Quiet. A nice place to live. But something has gone wrong.
Look at the bruises on the kid's neck. One hell of a large hand. His spine was crushed like a piece of balsa wood.
When the sun goes down, something stalks the streets of Galen Village.
Joe wants to call the Attorney General, have him send in some help. What do you think I should do?
Take whatever help you can get.
30 years ago in Galen, these same types of murders occurred.
I think my past has something to do with these murders.
No, Jim, listen.
Something silent. Something lethal. Something or someone is killing the people of Galen.
I think I'm going crazy.
Every time he has this dream, somebody dies.
You're talking about actual materialization.
What kind of a quack are you? The boy's in the clear.
He's not in the clear. Every time this kid has a dream, somebody in this town dies.
Hey!
It is real. It is alive. It is among us. The Incubus.
Pour rebondir sur ce que vous dites, ma réaction par rapport au film, le truc qui est intéressant, on va commencer là-dessus, avec l'incube, c'est que dans les représentations psychologiques, c'est lié à la paralysie du sommeil, c'est-à-dire ce moment où on se réveille, quand notre corps est totalement tétanisé, et qu'en fait l'explication logique que notre cerveau invente, c'est qu'il y a quelqu'un présent dans la pièce, et à partir de ce moment-là que naît le mythe de la succube et de l'incube. Donc on garde la thématique du rêve, et on garde aussi la thématique de l'impuissance pour le coup. L'autre truc qui est aussi intéressant, c'est que c'est un film qui parle de viol et que tous les crimes qui sont commis du coup avec la vision subjective, c'est-à-dire que le spectateur en soi est mis à la place du criminel. Un procédé qu'on a déjà dans Halloween et qu'on a aussi dans Maniac. Et à mon avis, ça rajoute le malaise à tout ça, vu que finalement, on est à la place de la personne qui agresse sexuellement une autre. Et c'est pas un truc très agréable. J'ai beaucoup aussi apprécié la musique, que je trouvais très, très énergétique. Et c'est intéressant parce que du coup, on suit un criminel qui s'en prend aux femmes. Et en fait, le cœur de l'enquête et de l'action, justement, tourne autour des hommes qui tentent de résoudre l'enquête. C'est un truc qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, notamment ce qu'ont fait Broadchurch avec la saison 3, où ils ont mis en avant plus un groupe de femmes pour enquêter sur l'enquête, vu que ça semblait beaucoup mieux adapté à la circonstance.
Autre film qui aborde la sexualité sous différents aspects, là aussi. Alors c'est un film, on en avait déjà parlé dans l'émission, et quand on en avait parlé, on s'était tous dit que en fait le film était beaucoup plus riche que ce qui n'y paraissait. Alors on est d'accord, hein, Incubus, comme le film dont on va parler là, Amityville 2, Le Possédé, hein, de Damiano Damiani, un film de 1980, sont d'abord des films faits pour capitaliser, alors là sur le premier Amityville, l'autre film sur la grande vague de slasher de l'époque, voilà, c'est pas des films, je veux dire, on n'est pas chez les tueries Ferrer de la Nouvelle Vague, on veut pas changer radicalement l'histoire du cinéma. Mais c'est intéressant de voir quand même comment, dans cette optique de série B, de films destinés quand même à produits pour fonctionner, pour marcher, quoi, comment on était subversif, en fait. Parce que ce sont des films où il y a de la subversion, voilà. Et ça, c'est quelque chose... ça a un peu disparu quand même aujourd'hui, la subversion, ou alors elle paraît factice. Et alors la subversion, elle est là à travers la représentation de la sexualité. Et ce que dit ce Amityville 2, Le Possédé de Damiano Damiani, qui est très intéressant puisqu'il est la préquelle du premier film, et qui est surtout la vraie histoire, là, celle de la famille De Feo. Enfin là, on a changé les noms. Mais ce que raconte ce film est quand même assez étonnant, enfin assez singulier. C'est le meilleur film de la saga, je pense qu'on peut le dire, de très loin. C'est un film un peu étrange parce que c'est pas du tout l'univers de Damiano Damiani, le fantastique, hein. Damiano Damiani, c'est El Chucho par exemple, c'est Seul contre la mafia, enfin c'est ce genre de film. Il est plus célèbre d'ailleurs pour ses films politiques en vérité, hein, voilà, que ce soit des polars ou des westerns. Là, je parle d'El Chucho, c'est quand même un chef-d'œuvre, El Chucho, hein, le Zapata western dans toute sa splendeur. Et puis, il se retrouve à travailler là pour le producteur italien un peu roublard, hein, Dino De Laurentiis, et qui lui fait tourner donc cette suite à Amityville. Alors, on sent bien que De Laurentiis, d'ailleurs, qui va travailler avec lui sur Evil Dead 2, vient de voir le Evil Dead de Sam Raimi, que Il lui demande de faire des plans à la Sam Raimi, parce que dans le film, c'est évident, la caméra qui tourne et qui passe au-dessus de ce jeune homme qui tue toute sa famille, puisque c'est ça l'histoire d'Amityville. Là, je ne révèle rien, parce que tout le monde le connaît, hein, voilà, tout le monde la connaît. C'est exactement le même plan que dans Evil Dead, quoi, voilà. Donc, Damiano Damiani, on va dire, on a peut-être l'impression qu'il ne veut pas mettre sa patte. Eh bien, si, pourtant, il y a la patte Damiani. C'est-à-dire que le film ne ressemble pas à un film américain, quoi. Le film est pollué. Il y a une infusion de cet esprit italien, voilà, de ce cinéma de genre italien, qui vient comme ça se greffer sur le film américain. Parce qu'on peut le dire, le premier Amityville de Stuart Rosenberg est un film assez plat. C'est pas un film extraordinaire. Moi, je suis désolé. Je sais que le film a plein de fans. Moi, je trouve vraiment que c'est pas un grand film, quoi. Voilà. Et ce film-là, tout à coup, très étrange, qui détonne par rapport au reste de la saga, parce qu'il a une esthétique presque giallo par moment, une esthétique très latine, très très italienne. Et pour rester sur notre sujet, ce film-là, il présente aussi un portrait sexuel d'une famille. Voilà, c'est ça, c'est assez intéressant. Et cette famille dans laquelle le fils possédé, donc, puisque c'est le sujet, c'est le titre, hein, aurait abattu toute la famille, peut-être selon les versions, alors ça c'est de vrais faits divers, hein, peut-être selon les versions avec sa sœur, on ne sait pas, il y a des différentes versions qui circulent. D'ailleurs, c'est un peu la thèse qui est reprise dans le film, non pas qu'il tue avec sa sœur, mais il a une relation particulière avec sa sœur. Et bien en fait, ça va donner un film dégénéré. Ouais, je trouve que c'est un film dégénéré, dans le bon sens du terme, un film un peu malade de la tête, où le père violent est joué par Burt Young, échappé de la saga des Rocky, il est vraiment violent. Les figures masculines sont toutes assez, en fin de compte, assez détestables. Le prêtre est très absent, il est absent surtout au moment le plus opportun, c'est-à-dire au moment où la jeune fille lui téléphone pour lui dire « mon frère va nous tuer, il faut venir », voilà, lui répond pas, il décide de pas répondre, pour partir en week-end avec son copain, dans la tente. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, alors on nous le montre pas trop frontalement, mais on sent bien qu'ils sont très copains. Voilà. Dans tout ça, quand même, la jeune fille qui a appelé, elle était venue se confesser peu de temps avant à l'église pour lui annoncer quand même qu'elle avait une relation sexuelle avec son frère, relation incestueuse avec son frère, donc celui qui tue toute la famille quand même. Relation incestueuse qui est carrément montrée à l'écran, hein, avec la jeune fille qui est nue et tout ça. Enfin bon, dans une scène assez étonnante, et d'autant plus étonnant que c'est plus elle qui est demandeuse à la limite. Enfin, le frère, il y va, hein, mais je veux dire, le frère, à un moment, il a des remords, des regrets, parce qu'on peut subodorer que c'est peut-être parce qu'il est possédé, on ne sait pas trop. Tandis qu'elle, elle n'est pas possédée. Hein. Elle a vraiment envie d'y aller. Alors derrière tout ça, il y a les parents, et les parents, c'est pareil, ils ont des relations sexuelles très particulières. On comprend à un moment que le père veut avoir des relations forcées avec la mère, qu'il est violent avec la mère pour avoir des relations forcées avec elle. C'est quelque chose qu'on entend derrière une porte. Donc, il y a énormément de tensions sexuelles dans le film, même s'il n'y a pas de scène érotique à proprement dite, enfin, ou quasiment pas. Mais il y a énormément de tensions sexuelles. Et après, il y a tout le cadre de la maison hantée, avec les portes qui claquent, voilà, les objets qui volent et tout, mais qui, à la limite, et j'ai envie de dire, est presque, comment dire, anecdotique, dans ce film où quand même la structure est un peu étrange, puisque toute la première moitié du film est un film de maison hantée où les gens ont des comportements un peu particuliers, surtout dans leur sexualité. Et puis dans la deuxième partie, c'est un film d'exorcisme. Voilà, c'est quand même un peu étrange.
Ah, tu le sais, c'est un film que j'aime beaucoup. On en avait déjà parlé dans une émission spéciale Maison Hantée. Et effectivement, il y a plein de... Tous ces personnages ont plein de comportements étranges, ambigus. Tu parlais du prêtre avec son aumônier qui part en camping, pêcher à deux. En amoureux, c'est peut-être beaucoup dire, mais bon, c'est quand même... L'aumônier a quand même un comportement plus ambigu que lui, à la rigueur, parce que le prêtre, à la rigueur, lui, il aurait du désir pour la sœur, pour la jeune femme. Et après, il est pris de remords parce qu'il l'a laissé mourir, mais lui est aussi pris de remords parce qu'il n'a pas su, il a trop peut-être maîtrisé son désir aussi quelque part, et qui s'est fait influencer par l'aumônier qui était peut-être un peu jaloux aussi. Voilà. Et effectivement, c'est un film intéressant dans le sens où maintenant, un film comme ça, comme une Kubus, hein, c'est impossible de le faire aujourd'hui. Parce que la façon dont il déglingue la sacro-sainte famille, Aujourd'hui, c'est plus possible. Pourtant, ils montrent des choses. Les deux films montrent des choses dont on parle beaucoup maintenant, qui défraient la colline, c'est-à-dire le viol, quoi. Le viol au sein du couple. Ça existe, un viol, quand on est marié. Je veux dire, une femme qui veut pas, elle veut pas. Et voilà, point. Même si on est marié, elle veut pas, quoi. Effectivement, c'est un film qu'aujourd'hui, on aurait du mal à faire, malgré ces thématiques-là. Mais il attaque tellement des choses qui sont encore taboues de nos jours que je pense que, oui, ça serait difficile à produire et à réaliser aujourd'hui.
Écoutez Culture Prohibée.
Des maisons hantées, nous allons passer aux voitures hantées avec Christine de John Carpenter. John Carpenter qui adapte un roman de Stephen King et qui parle d'une Plymouth Fury 1958 qui est hantée. Enfin, dans le roman, elle est hantée. Dans le film, c'est moins évident. C'est quelque chose que Carpenter a occulté et qu'il regrette d'avoir occulté, d'ailleurs. Et pourtant, Christine, c'est quand même un chouette film. C'est l'un de ses meilleurs films pour moi. C'est un film de Carpenter que je ne me lasse pas de revoir, notamment depuis qu'il est sorti en Blu-ray chez Carlotta. Là. Et la thématique du film rejoint un peu la thématique d'Incubus. On parle d'adolescence, on parle de sexualité, on parle d'éveil à la sexualité, de virilité encore. On parle de tout ça dans Christine. Et donc, c'est l'histoire de Arnie, Arnold Cunningham, qui un jour est avec son pote Dennis et voit une voiture en ruine, cette fameuse Plymouth Fury 1958, rouge. Et il en tombe littéralement amoureux. Voilà, il est amoureux d'une voiture. Alors, la voiture est en ruine, mais le propriétaire lui tend les clés. Il met la clé dans la serrure et la voiture démarre tranquille, sans problème, alors que c'est vraiment une ruine. À partir de là, Arnie va se transformer, va devenir quelqu'un d'autre. Le garçon timide et gauche qu'il était va devenir une sorte de dur, arrogant, cruel, désagréable. Et il va même sortir avec la plus belle fille du lycée, Alexandra Paul, qui plus tard s'est perdue sur les plages de Malibu. Et là, ça ne va pas trop aller parce que Christine est la plus belle fille du lycée. Ça ne va pas coller des masses. Et à partir de là, il va y avoir des morts.
Ce qui est intéressant avec Christine, c'est la relation homme-machine qui se crée, voire même l'idée qu'on pourrait dire, qu'on pourrait voir aujourd'hui d'un progrès technologique, cette façon de donner une âme à un véhicule qui finalement va se développer et va dépasser son créateur. D'une certaine façon, ça me rappelle un peu la Vénus d'Île de Mérimée qui pose sa bague de mariage sur la statue qui va prendre vie et qui va finalement s'en prendre à lui. Et ce que j'aime beaucoup avec Christine, c'est justement que le personnage développe une relation avec son véhicule assez particulier, au point d'ignorer tout ce qui se passe autour, qui rappelle la maxime bien connue, l'amour rend aveugle.
C'est aussi un film qui surfe sur la mythologie états-unienne, c'est-à-dire la voiture est le prolongement de la virilité. Et c'est par ce prolongement que Arnie va prendre confiance en lui et devenir cet être assez ignoble et qui va finir même par s'en prendre à des mecs qui sont plus virils que lui. Il y a cette scène justement où ça peut être un viol aussi. Quand Buddy, la bande de Buddy Riperton casse la bagnole, etc., c'est un viol. Et donc après, on est un peu dans le rap on revenge quelque part, quand la voiture se venge des mecs. Et c'est une attaque directement au masculinisme, à la virilité.
Alors c'est aussi, alors bien sûr c'est tout ça, c'est aussi un film clairement, qui dénonce... J'arrive pas jusqu'à dire le capitalisme, mais qui dénonce en tout cas. On sait que les deux, hein, de toute façon, Stephen King et Carpenter, si c'est pas des progressistes, qu'est-ce que c'est, hein, c'est deux progressistes, c'est deux hommes de gauche, hein, même si Carpenter s'en défend de temps en temps, c'est évident que c'est un homme de gauche, voilà, puis il le sait au fond, voilà. Et pour ça qu'il plaît autant d'ailleurs aux Français, hein, voilà. Et c'est aussi une critique. De ces États-Unis là, de ce productivisme, de ce fordisme. Au début, on a cette voiture à la chaîne qui est produite, et en même temps, il se moque aussi parce que c'est un cinéaste féministe, Carpenter. Il y a toujours des personnages forts. Là, le personnage incarné par Alexandra Paul, qui est presque méconnaissable par rapport à ce qu'elle ressemblera physiquement quand elle fait par exemple Alerte à Malibu dont tu parlais, et tout là, elle va devenir très baraquée. Très, très athlétique, mais là elle a encore un côté un peu adolescente et tout, même si elle est carrée des épaules, quoi. Voilà, et comment dire, il y a un rapprochement qui est fait avec deux valeurs clés, quand même, du mythe américain et du mythe capitaliste américain, la bagnole, la gonzesse. Voilà, pour parler de manière triviale, la bagnole, la gonzesse. J'ai la grosse bagnole, j'ai la gonzesse. Voilà, alors évidemment. Vous allez me dire, c'est un peu ça qui se passe dans le film, sauf que c'est pas vraiment ça qui se passe. D'abord, Alexandra Paul, elle a pas le comportement, voilà, c'est une femme moderne, c'est pas du tout une femme soumise, elle vient pas vers lui à cause de la bagnole, elle vient vers lui parce que lui, il a confiance en lui. La différence, elle est là, c'est que l'amour de sa vie, c'est cette bagnole. D'ailleurs, à un moment, il lui demande de faire un striptease, il fait « show me ». Voilà, la bagnole, elle se remonte devant lui, après ce que tu disais quand elle s'est fait bousiller, là. Elle se remonte devant lui, c'est comme un striptease, quoi. Voilà, montre-moi, comme ça, avec le regard, là, il est presque libidineux envers la voiture. C'est un moment incroyable du film. Et moi, ce que j'aime aussi dans ce film, du coup, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se moque des mythes américains, la bagnole, la gonzesse, parce qu'en fait, c'est pas une bagnole. Voilà, elle représente quelque chose, cette voiture. Et cette voiture, c'est plein de choses. Alors, c'est la virilité du garçon, là, qui a du mal à se construire, qui est adolescent. C'est sa femme idéale, c'est cette voiture, en fait. Hein. C'est pas Alexandra Paul. En fait, Alexandra Paul, il s'en moque un peu. Hein, voilà. Alexandra Paul, de l'autre côté, c'est pas le stéréotype de la pin-up. Voilà, c'est une femme forte, c'est une femme... Elle n'a rien à voir, voilà, avec les stéréotypes. Et ce qui est très intéressant, alors, au titre de l'anecdote, Denis, c'est quand même Lambert Wilson qui fait la voix dans le genre, personnage emblématique de la métrosexualité, comme on pourrait dire. Lambert Wilson, il se pose là, quand même. Hein. Mais là, c'est le hasard, mais c'est lui qui fait la voix de Denis. Et il y a aussi, je veux dire, c'est... Plus qu'un triangle, c'est presque un quatuor amoureux. Parce que bon, il y a une amitié très forte entre les deux hommes. Il y a cette femme qui vient se mettre entre les deux. Cette femme, c'est pas Alexandra Paul, hein, au départ. C'est la voiture, quoi. Puis après, il y a aussi Alexandra Paul, quand même. Voilà. Donc, c'est une relation très... J'irais pas jusqu'à dire qu'ils ont une relation homosexuelle, les deux, là. Mais ils ont une relation de franche camaraderie, d'amis, comme on peut l'avoir entre filles ou entre garçons, surtout à l'adolescence. Où l'amitié se construit, c'est très fort à ce moment-là dans la vie, c'est très important l'amitié. L'amitié, c'est tout ce qu'on a. On n'a pas encore fondé de famille, on n'a pas encore une voiture à payer, des crédits pour payer sa maison, tout ça. Notre vie est encore pleine de riches de possibilités et l'amitié, du coup, ça devient un truc primordial dans sa vie de tous les jours. Donc il y a cette amitié très forte qui est brisée par cette étrange voiture-là qui vient s'immiscer. Et du coup, ça donne vraiment, parce qu'il y a ce côté aussi, c'est quand même assez gonflé, cette idée de... La relation, elle n'est pas consommée sexuellement entre Arnie et la bagnole, mais quand même, il y a une vraie relation charnelle, par contre, entre eux deux. Et ça, je trouve ça très étonnant dans un film.
On peut aussi voir dans le film une certaine critique de la société américaine, de la famille américaine, d'une société conformiste. Parce que cette voiture,
elle est rouge, elle représente le désir, l'amour, etc. C'est quelque part, c'est aussi une femme, ça peut être une femme qui demande à être s'émanciper. Et ça gêne ces gens-là. Ça gêne Dennis, ça gêne les parents d'Arnie, ça gêne beaucoup de monde. Ça gêne Buddy Riperton, les gros virils, etc. Ça gêne tout ce monde-là. C'est une femme qui veut s'émanciper, en fait. Elle veut pouvoir vivre d'elle-même. D'ailleurs, il y a ces plans récurrents sur le compteur qui va à rebours. Et le gros bulldozer, qui est pas un symbole phallique visuellement, mais... C'est ça, quoi. Je veux dire, le gros bulldozer qui l'écrase et qui l'empêche justement de passer de en dessous de zéro au compteur, c'est ça, quoi. On empêche la femme de trouver une émancipation, on empêche la femme de vivre librement sa sexualité, d'être une femme libre.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial sexualité dans le cinéma d'horreur des années 80. On ne pouvait pas parler de la sexualité dans le cinéma d'horreur des années 80, même si c'est là, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un film fantastique, horrifique, on va dire. Voilà. Il y a quand même des scènes un peu gorichimes dedans. Sans parler de Fright Night, Vampire, vous avez dit Vampire, de 1985, de Tom Holland. Bah, tout d'abord, parce que bon, cette histoire, elle est simple. Hein, c'est l'histoire du jeune Charlie Brewster. On en a déjà parlé, hein, ce film, dans l'émission, hein, quand il est sorti chez Carlotta. C'est un fada de film d'horreur, hein, voilà, qui va rappeler à plein de gens ce qu'on était quand on était ado, fada de film d'horreur. Et qui soupçonne ses nouveaux voisins, donc le séduisant antiquaire Jerry Dandridge et son assistant Billy Cole, d'être des vampires. Et après avoir assidûment surveillé ce couple, voilà, il parvient à les démasquer et décide de les anéantir. Et pour l'épauler dans cette mission, il fait appel à un présentateur de films d'épouvante de la télé locale, Peter Vincent, joué par Roddy McDowall, qui est savoureux. Qui en fait est plutôt trouillard et pas très fort lorsqu'il s'agit de se frotter aux vampires, et informé des intentions de ce jeune homme, eh bien le monsieur Dandridge, donc Chris Sarandon, décide de séduire la fiancée du jeune garçon et de transformer l'un de ses amis, Head, en créature de l'ombre, creature of the night. Voilà. Pour reprendre là aussi un autre film, mais c'était les années 70 qui explose bien tous les tabous en matière de sexualité. Je vais bien sûr parler du Rocky Horror Picture Show. Et voilà un peu l'histoire, hein, puis il va y avoir l'affrontement. Bon, je crois que c'est clair, on ne pouvait pas ne pas parler de ce film, qui est clairement, c'est quelque chose qui n'a jamais été abordé. Vous pouvez reprendre, j'ai fait l'expérience, hein, parce que bon, je suis replongé dans mes Mad Movies et mes écrans fantastiques et tout de l'époque pour préparer l'émission. On ne parle jamais du caractère gay de ce film qui est ouvertement homosexuel quand même. C'est hyper impressionnant. Je ne vais même pas citer toutes les scènes, il y en a tellement.
c'est un film vraiment ouvertement homosexuel, quoi. Clairement, ce couple d'hommes, ce jeune homme qui est complètement obsédé par son voisin, qui du coup en arrive à ne plus besogner sa copine, qui lui dit hey, « c'est bon, tu cherches des excuses pour pas t'occuper de moi, quoi. » Voilà, quoi. Donc, il y a plein d'éléments comme ça. Il y a aussi une scène où un personnage masculin est à genoux devant l'autre dans une pose plus que suggestive. Voilà, enfin, il y a plein de moments comme ça. Je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un phénomène queer, ce film. Voilà, même si à l'époque, visiblement, la critique est complètement passée à côté. Et je pense qu'elle est passée à côté, même pas volontairement. C'est-à-dire qu'elle ne l'a pas vu, quoi. Alors que pour moi, c'est clair.
Oui, c'est clair. Et je retourne encore. Je trouve que ça rejoint la thématique de Christine, c'est-à-dire cette société très conformiste où on fait l'amour en missionnaire, etc. C'est aussi une critique de ça. Et ces personnages, ils sont gênés par ce personnage, Jerry Dandridge, qui n'est pas que gay, en fait. Il est bi. Il est bi. Et donc, il est gêné par cette sexualité libre qu'il pratique, en fait. Ils sont gênés par ça. Et c'est ça qu'ils veulent éliminer. C'est retourner...
Sauf le héros, il n'est pas gêné. Le héros, il est gêné par sa propre sexualité,
oui,
je pense.
Oui, il refoule aussi. Mais par exemple, quand il voit sa copine, tout émoustillée, très sexy, etc., ça le gêne, quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est retrouver sa copine timide, limite qui ressemble pas à grand-chose, au niveau des fringues, etc., qui n'est pas sexy, qui n'est pas attirante. Lui, c'est ça. Mais quand les gens deviennent sexy, classe, comme Jerry Dandridge, il est classe, il est sexy. Là, ça le gêne. Que ce soit un homme ou une femme, là, ça le gêne. Et évidemment, lui, il refoule l'homosexualité. D'ailleurs, un de ses potes lui dit, quand il s'est fâché avec sa copine parce qu'il refuse de la besogner, comme tu dis si élégamment, il lui dit, son pote lui dit, « Ah, parce qu'elle a trouvé, maintenant, qu'est-ce que tu aimes vraiment ?» Et son pote, je pense que son pote, lui, est homo, ouvertement. D'ailleurs, elle le dit déjà d'entrée. J'ai dit les gens différents comme nous, etc.
D'ailleurs, c'est un peu la seule limite du film, c'est-à-dire que la manière dont est présenté le personnage, c'est un peu une caricature d'homo, je trouve. Parce qu'il est homo, c'est clair. T'as raison. Et ça, c'est pas caché, je pense, dans le film. Il faut être aveugle pour pas le comprendre.
C'est un homo qui. Moi, je comprends dans le film, il est homo, mais il se cache aux yeux des autres.
Oui.
Voilà. Parce que justement, c'est une époque où c'est pas forcément encore bien vu.
Alors après, il y a un truc aussi très rigolo. Très rigolo dans le film, c'est Harry M. Benchoff qui a écrit un livre culte pour tous ceux qui s'intéressent au cinéma queer qui s'appelle Monster in the Closet, le livre. Et il écrit un truc qui est énorme, et moi j'avais jamais fait gaffe, et je m'en suis rendu compte là en revoyant le film, quoi. C'est que les agressions vampiriques à 99% nous montrent le vampire qui attaque de dos ses victimes. Et lui, donc Benchoff, dans le bouquin, écrit comme s'il allait les sodomiser plutôt que les mordre. Et il y a plein d'éléments comme ça qui font que le film est assez... quand Ed, le copain du héros, il est vampirisé par Dandridge, c'est dans une petite ruelle un peu sombre, plutôt pour un rendez-vous galant qu'on imagine un peu honteux, voilà, qu'on cache aux yeux du reste de la population, plutôt qu'un endroit pour une agression vampirique, quoi. Enfin, le film est assez costaud quand même de ce côté-là, assez costaud, et j'aime beaucoup parce qu'en plus il a une manière d'aborder le sujet qui est très intelligemment, en fait, parce qu'en fin de compte, comment dire, alors déjà, c'est une très bonne idée d'avoir pris Chris Sarandon aussi, je trouve. Parce que Chris Sarandon, il a débuté en étant le transsexuel amant de Pacino dans Un après-midi de chien. C'est lui, en fait. Voilà. Donc, je trouve que c'est une super idée. C'est une super idée. Mais après, et je pense pas que c'est le hasard. Hein. Je pense pas que c'est le hasard, vu le... Parce que Jerry Dandridge, donc, a donc été le petit copain homosexuel de Pacino dans Un après-midi de chien. C'est un truc... J'espère que vous n'avez pas vu Un après-midi de chien, parce que c'est un peu un truc qu'on découvre pas tout de suite dans le film, voilà. Mais je trouve que c'est une bonne idée, voyant le film. Il faut savoir même que certains acteurs, aujourd'hui, sont un peu gênés par ça, du film. Certains disent, je m'en étais rendu compte, c'est complètement évident. Puis d'autres disent, c'est pas vrai, c'est un film tout à fait straight, comme on dit aux États-Unis, voilà... alors que ça paraît évident, et Tom Holland se garde bien de donner la moindre explication. Et moi, ce que j'aime bien, c'est cette manière, en fin de compte, assez saine d'aborder l'homosexualité. C'est-à-dire que ce n'est pas abordé comme une maladie honteuse. C'est, bon, voilà, Jerry Dandridge, tu l'as dit, il a une sexualité libre, il est heureux, il est bien comme ça. C'est les autres que ça emmerde, c'est pas son problème, quoi.
Pour rester sur Charlie et sa copine, ce qui est intéressant, c'est que justement, le début de film, c'est Charlie et sa copine, et elle est réfractaire à faire l'amour. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, au moment où elle va décider de franchir le pas, lui va développer son obsession pour son voisin le vampire. Et c'est ça qui est intéressant, finalement, c'est qu'on peut aussi y voir justement la peur du sexe avec justement une femme, ce qui se retrouve totalement dans l'affrontement final, quand sa femme est transformée en un personnage féminin sexy et à la fois féroce, et qui fait tout, bah, littéralement, il fait tout pour essayer d'y survivre.
C'est insupportable pour un homme, quoi. Je veux dire, une femme qui prend les initiatives, bah non, quoi. Puis, bon, le film a beaucoup d'humour, hein. C'est aussi une petite parodie du cinéma d'horreur, une parodie respectueuse. Et il y a un détail qui m'a frappé la dernière fois que je l'ai regardé, je n'avais pas noté, c'est quand même un vampire qui mange des pommes, quoi.
Mais en parlant de parodie, justement, au moment, la première fois, il va voir le tueur de vampires, justement, il va lui dire oh, « j'ai un vampire qui me poursuit, nanani, nana ». Et ce que lui répond, justement, le chasseur de vampires, c'est « mais on n'est pas dans un slasher actuel et tout, il n'y a rien à craindre ». Ce qui est vraiment aussi sympa, c'est qu'au niveau des références, il y a certes les slashers, mais on peut aussi repenser à celle de la scène de danse dans la discothèque où, justement, le vampire réussit à prendre la copine. On a toute une scène de danse où, justement, elle développe finalement son pouvoir qu'elle aura sur Charlie à la fin. Et on a ce moment où elle danse, il passe à côté des miroirs et on a l'absence du vampire, mais elle qui danse, qui pour moi est une référence flagrante au bal des vampires.
Eh bien, écoute, Damien, c'est vrai que j'y avais pas pensé et tu as raison, c'est clairement une référence, oui, au bal des vampires de Polanski. Polanski qui aura un peu animé notre émission, puisqu'on a un peu parlé de lui tout à l'heure, au moment d'Incubus. Bon, vous l'aurez compris, ce sujet nous passionne, est passionnant. Je pense même qu'il mériterait peut-être d'autres émissions, il y a d'autres films qu'on n'a pas abordés, il y a le cinéma de Cronenberg, il y a des choses comme ça, voilà. Mais aujourd'hui, on voulait vraiment aborder plutôt un cinéma plus commercial, voilà, et vous faire voir à quel point dans ce cinéma commercial on était capable d'être subversif et d'avoir une représentation de la sexualité quand même qui était on va dire qui brisait les tabous et qui allait assez loin, ce qui a quand même aujourd'hui globalement, nous on le trouve dans notre rédaction en tout cas, un peu disparu des films fantastiques et d'horreur contemporains. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud, Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demédy, la bête noire de Compiègne, Thomas Roland, le loup-garou Picard and the Last, but not the least. Je vais bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.